Comment savoir ce qui se trame dans l'ordinaire des choses et dans l'apparente banalité ? On sait bien qu'échappe à notre acuité la complexité des lois qui font zigzaguer les hirondelles dans les colonnes de moustiques, conçoivent l'architecture des petits serpents ou des toiles d'araignées, agencent les chants et les ballets de tout ce qui vit. On peut devenir métaphysicien en regardant un talus. Patrick Autréau est ce soir notre invité à l'occasion de la publication de son nouveau livre intitulé « La Sainte de la Famille ». Et comme chaque soir, nous allons commencer en musique et ce sera Lou Reed.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do. Do 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 do.
Si nous avons choisi cette magnifique chanson de Lou Reed, c'est parce qu'elle figure dans un de vos livres précédents intitulé Pussy Boy. Et vous racontez, Patrick Autréau, comment cette musique a rythmé ses rencontres à une période de la vie du narrateur, qui est peut-être aussi très proche de vous, une période de perdition. Est-ce que vous aimez la noirceur du monde et le côté sauvage ou noir du monde ?
Je ne suis pas sûr que le côté sauvage ou le wild side, ce soit forcément l'ombre. Pour moi, il me semble que c'est plutôt la limite, la bordure, là où il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait net, pas précis, quelque chose qui s'effrange, où il y a aussi quelque chose à tisser. Je crois que c'est toujours ça qui m'a attiré dans the wild side.
Mais c'est quoi ce wild side ? Il faut y aller.
Ah, on y est conduit par les événements la plupart du temps. Je crois aussi que le wild side, c'est pas quelque chose à quoi on décide d'aller rendre visite. C'est aussi quelque chose qu'on subit. C'est vrai de la passion amoureuse, c'est vrai de la maladie, c'est vrai des grandes expériences intérieures. Et c'est là aussi où justement on touche à ce qui s'effrange et se rôtisse malgré soi. Il y a cette part du malgré soi. Je crois beaucoup à en tout cas dans mon travail d'écrivain et puis dans la vie tout court, j'essaye d'aller là où il y a pas tout à fait, où j'ai pas tout à fait la maîtrise, où j'ai pas tout à fait le choix. Je me sens aventurier.
Aventurier de l'esprit ou aventurier de votre propre corps ?
Oh, c'est pareil.
Pas pour tout le monde.
Pour moi, c'est un peu la même chose. L'esprit, il procède d'expériences du corps. Même quand ce sont des expériences très spirituelles, il y a, à mes yeux, toujours un ancrage très fort dans une marche, dans la confrontation à un paysage, dans la confrontation à un corps ou dans un événement. J'ai, comme beaucoup de gens, beaucoup dissocié. Je suis pas sûr de le dissocier aujourd'hui. Même si on peut prolonger davantage les expériences mentales dans quelque chose de plus abstrait, qui semble dissocié du corps, mais j'ai le sentiment profond qu'il y a toujours ce lien avec le corps et avec que l'état d'âme est quand même un état du corps profond.
Je me souviens de votre premier livre, c'était en 2009, il nous avait éblouis et bouleversés, s'intitulait « Dans la vallée des larmes ». Et justement, vous y faisiez preuve pour ce premier texte d'une maîtrise de la coupure entre votre esprit et ce que subissait ce corps malmené qui était très malade. On avait l'impression que seul l'esprit subsistait et que votre corps allait peut-être disparaître.
Ça, c'est peut-être un effet du trauma, je pense. Et il est possible qu'on ait cette impression en lisant certains de mes livres, mais je crois que tout l'effort de l'écriture est de renouer le lien entre cette hyper-lucidité mentale et ce désir aussi d'une conscientisation, d'une vie psychique qui nous semble nous faire échapper à la douleur ou au corps, mais je crois que l'écriture, là où je la place, elle est là pour retisser ce lien. Parce que sinon, en tout cas dans l'expérience de la maladie, mais il est vrai aussi dans l'expérience de la sexualité, sinon j'ai le sentiment de vivre dans une sorte de discordance qui ne me rend pas heureux. Et donc j'ai besoin de ce lien-là, de retisser ce lien quand il y a eu rupture entre la vie mentale et puis la souffrance ou le plaisir du corps.
C'est parce que vous avez été malade, très malade, Patrick Autréau, que vous avez décidé d'en écrire, d'entrer dans l'écriture, comme on dit, d'entrer dans une forme de vocation.
Je crois que ça a accéléré le processus qui était déjà sous-jacent. J'ai beaucoup écrit avant de tomber malade. Ça a complètement transformé mon écriture et mon rapport à l'écriture. Ça m'a permis d'avoir moins peur de l'écriture aussi, d'être moins bavard dans l'écriture. Mais il y avait un terrain qui était présent. Peut-être qu'avec ce dernier livre, je crois, puisque vous faisiez allusion au premier livre dans la vallée, celui-ci, La Sainte de la Famille, il me semble que j'ai enfin accepté l'idée de revenir à un trou très ancien qui j'ose pas dire le mot de fondateur ou d'origine ou de source, mais qui est maintenant, je le vois comme ça, comme très vraisemblablement à l'origine de tout mon travail depuis. Probablement mon désir aussi d'étudier la médecine, et puis ensuite d'aller vers la littérature, et puis vers la psychiatrie, et puis la psychanalyse aussi à un certain moment. Je crois que tout est lié.
C'est parce que vous avez écrit sur votre maladie que vous avez pu la traverser, maintenant, avec le recul du temps, Patrick Autréau ?
J'ai écrit assez longtemps après avoir été malade. Je crois que j'ai pu écrire quand j'étais à peu près guéri. Dans le moment même de la maladie, j'ai écrit pas mal de poèmes, parce que les poèmes, j'en publie très peu, mais j'en écris dans les moments de douleur et de cris. C'est la seule forme littéraire que j'arrive à saisir. Mais pour moi, j'ai besoin d'une certaine forme de tranquillité ou de sérénité pour construire une narration qui s'impose dans le temps, qui a besoin de se croire non pas immortel, mais enfin de savoir qu'elle n'est pas pressée par le temps.
Je voudrais vous faire écouter celui qui, je pense, vous a permis de croire en votre écriture, puisque depuis ce premier livre, il y a eu de nombreux livres. Il s'appelait Jean-Bertrand Pontalis, et il va expliquer ce que représentaient pour lui la psychanalyse et la littérature. C'est une archivina du 1er mars 2010, la voix de J.B. Pontalis.
J'ai déplacé, ou peut-être chercher en tout cas une autre voie, vers quoi ? Vers ce que je ne connais pas bien. Parce que l'analyse, c'est tout à fait ça, c'est aller au-devant de ce qui est inconnu en soi, et qui va plus ou moins se révéler, en tout cas dont on va approcher en cours d'analyse. Et avec les patients, c'est la même chose. Je le dis souvent, c'est la rencontre de deux inconnus. Quelqu'un vient me voir, je ne sais rien de lui, il n'est pas du même milieu, il n'a pas la même histoire, il n'a pas la même névrose que moi, il n'a pas les mêmes fantasmes, et en un sens, il ne parle pas la même langue. Et lui, c'est pareil pour moi, il ne sait rien de moi et tout. Et de la rencontre entre ces deux inconnus va naître quelque chose d'inconnu. Et la littérature, enfin ma littérature, c'est un mot un peu ambitieux peut-être, un peu emphatique pour les petits livres que je fais, ça représente ça pour moi. Je ne fais jamais de plan, je ne sais pas trop où je vais aller quand je commence à écrire, et je ne vais pas parler de ce que je connais par cœur de moi, hein, j'essaye que quelque chose de nouveau apparaisse, donc c'est une autre forme tout à fait différente de la psychanalyse, hein, je ne les confonds pas, mais une autre forme de recherche, non pas d'un centre, parce que le centre est toujours introuvable, il dérobe de son propre centre, il se déplace, comme vous diriez, mais enfin une manière d'approcher de ce que j'ignore, et peut-être de pouvoir en dire quelque chose.
J.B. Pontalis était psychanalyste, il était écrivain, il écrivait des livres magnifiques, mais il était aussi éditeur, et il avait fondé une collection dans laquelle vous avez publié votre premier livre, Patrick Autréau, qui s'intitulait « L'un et l'autre ». Êtes-vous l'un et l'autre en même temps quand vous écrivez, et comment J.B. Pontalis vous a-t-il donné l'élan de croire en vous ?
J.B., ça a été une grande rencontre. Elle est ancienne, elle était avant même la publication. C'était un des très très rares éditeurs qui avait repéré à qui j'avais envoyé par la poste, et qui a repéré un manuscrit bien avant dans la vallée, mais qui était une préfiguration dans la vallée. Et puis on s'est vu pendant 2-3 ans, comme ça, je lui envoyais des manuscrits de temps en temps. Et puis il y a eu dans la vallée. Ça a été à ce moment-là pour lui une quelque chose de décisif. Et puis il a commencé de publier. C'est devenu un ami très vite. C'est toujours émouvant d'écouter sa voix, parce que j'ai aussi été très proche de lui jusqu'à la fin. Donc on fête les 10 ans de sa mort là il y a quelques jours. Il est très présent à mon esprit. Et il est aussi très bon, pardon, d'associer comme ça, très présent, parce que le texte sur Thérèse, je lui avais proposé un texte sur Thérèse il y a très très longtemps. Donc le fait que la Sainte de la Famille paraisse en ce moment, pour cet anniversaire que personne ne sait particulièrement, enfin que j'évoque pas forcément, c'est un peu émouvant. Mais JB, c'était quelqu'un. Je l'ai rencontré aussi à un moment qui était la mort de mon grand-père, donc évidemment on peut pas s'empêcher de penser qu'il y avait une relation transférentielle avec lui. Mais c'était quelqu'un qui savait évidemment écouter et qui avait son idée sur la littérature. On n'était pas toujours d'accord. On était amis, mais on n'était pas toujours d'accord. Et longtemps, il a essayé de m'emmener vers des lieux littéraires qui, moi, me faisaient résister parce que je les sentais pas en lien, en justesse avec mon intuition profonde.
Par exemple,
il m'emmenait vers le roman avant que je n'écrive dans la vallée. Et moi, j'étais plus proche de l'écriture poétique, de peut-être même du théâtre à un moment donné, et puis de l'écriture de soi. En tout cas, pour les premiers textes, j'avais besoin de passer par l'écriture de cette expérience-là, même si et c'est ce qui lui a plu dans ce texte, même si elle a été dépassée, parce que je m'inscris pas du tout dans une écriture auto-fictionnelle, mais je suis beaucoup plus proche des écrits autobiographiques des mystiques, au fond. Et ça, il le reconnaissait. Lui, qui n'était pas croyant, moi non plus d'ailleurs, mais il avait moins la connaissance de toute cette tradition des mystiques. Mais il l'a reconnu d'emblée. Et je pense que sa présence a toujours été bienveillante. C'était un homme bienveillant. C'était aussi un homme qui... il avait dit dans un entretien qui date des années 70, qu'on peut retrouver sur Internet, que la psychanalyse aussi, pour lui, c'était de vouloir faire en sorte que les entraves des autres, les siennes d'abord, et puis des autres, tombent pour qu'ils adviennent à leur propre liberté, fassent leur choix, mènent leur vie, trouvent leur écriture, leur voix.
Écrire, c'est prier. C'est ce que vous écrivez dans ce dernier livre.
Ou peut-être pas, j'ajoute.
Ou peut-être pas.
En tout cas, écrire... là, je rejoins Simone Veil. Écrire, pour moi, c'est lié à l'attention. Et en ce sens, ça s'apparente à la prière. En tout cas, moi, la prière telle que je peux l'entendre, c'est une forme d'attention qui est à la limite du langage, qui est faite de mots et qui est faite de cet endroit de la conscience où le mot vient et où on le repousse et où on est sur cette frontière là. Parce que le mot appelle l'émotion, le mot fait venir quelque chose de l'être, et aussi l'occulte. Il me semble que l'attention et la prière, ce serait pour moi quelque chose... l'attention extrême qu'on a dans l'écriture s'apparente à ça, d'essayer de faire venir quelque chose de l'être, et puis ensuite de faire le tri dans les mots.
Vous écrivez depuis longtemps sur votre propre expérience autobiographique, Patrick Autréot. Il y a eu La Vallée des Larmes, c'était le premier, il y avait Soigné. Ensuite, une quinzaine ou une petite vingtaine d'années se sont écoulées et vous publiez La Sainte de la Famille. Dans le paysage littéraire français, vous êtes absolument unique et singulier, puisque vous franchissez à rebours les étapes de votre propre vie. Est-ce que le fait d'avoir reçu de vos propres parents lors de votre entrée en sixième, en tout cas c'est ce que vous racontez dans votre nouveau livre, La Sainte de la Famille, une encyclopédie médicale comme cadeau, vous a encouragé plus tard à faire vos études de médecine?
Ça a sans doute participé, mais je pense que ça c'était un détail qui venait concrétiser un désir latent de toute ma famille, mes parents et puis mon grand-père. Je pense que là, si le mot de vocation a un sens, parce que je suis pas sûr du mot de vocation, ça, on peut l'entendre aussi comme une sorte d'injonction douce d'un milieu. Disons que cette vocation médicale, elle aurait plutôt plutôt comme origine la maladie, sans doute, de ma grand-mère et sa mort quand j'avais 5-6 ans. Et puis sans doute ce qui a suivi, le deuil de la famille. Et dans le discours de mon grand-père et de ma mère, qui avaient eux-mêmes des histoires médicales lourdes, une admiration pour le corps médical qui avait sauvé beaucoup de gens, enfin qui avait sauvé mon grand-père, qui avait sauvé ma mère, qui n'avait pas pu sauver ma grand-mère, elle. Et donc quand j'ai eu 4 ou 5 ans, donc avant même la mort de ma grand-mère, je disais « je veux être médecin ». Et puis quand ma grand-mère est tombée malade, il paraît, parce que ça on me l'a rapporté, je m'en souviens pas, quand je serai plus grand, je vais devenir médecin, je vais te guérir. Et c'est quelque chose qui était une parole rapportée, mais qui est resté très très très, très présent chez moi jusqu'au moment où j'ai été étudiant en médecine, évidemment, et puis interne. Et dans les tout premiers patients que j'ai eus, j'ai accompagné deux vieilles dames. J'étais à l'époque interniste à l'hôpital Rothschild, c'était avant de commencer la psychiatrie, et très consciemment, je savais que tous les liens qu'il pouvait y avoir avec ma propre histoire et avec ma grand-mère, et je pense qu'avec les familles qui étaient autour de ces deux dames, j'allais pas raconter mon histoire, mais je les comprenais très très bien à cause de mon histoire familiale. Donc il y a évidemment quelque chose qui m'a été offert comme ça, mais mon grand-père m'offrait aussi cette revue. Mes parents et mon grand-père sont dans un milieu très modeste, et personne n'avait fait d'études supérieures chez moi. Mais mon grand-père, pour préparer mon bac, donc il y avait une fin utilitariste, m'offrait une revue qui paraissait dans les années 80, qui s'appelait Grand Écrivain. Et donc, c'était les livres de littérature que j'avais, qui étaient des livres très courants, vendus. On vendait un fascicule sur un auteur, et puis un livre de cet auteur. C'est comme ça que j'ai commencé à lire les classiques, et que j'ai sans doute été poussé aussi vers l'écriture sans bien m'en rendre compte, moi, et sans que mon grand-père, je pense, s'en rende compte.
Pourquoi, quand vous avez été guéri, entre guillemets, parce que je ne sais pas si vous acceptez ce mot de guérison, en tout cas, quand vous en êtes sorti, alors que vous auriez pu vraiment mourir, pourquoi vous avez décidé, au bout d'un temps assez court, d'abandonner la médecine ?
J'étais trop blessé, je crois. J'étais trop fragile.
Par la médecine ?
Non, par la maladie. Et guérir, c'est vrai que j'ai un peu de mal à utiliser. Maintenant, ça fait 20 ans. Donc, sur un plan purement médical, si j'étais un médecin qui me disait à moi, patient, oui, tu es guéri. Ce qui m'a été dit à un moment donné. Mais psychiquement, ça a été. La guérison a été plus compliquée. Guérir, c'est quelque chose de vraiment difficile. Alors, bien sûr, il faut avoir la chance de survivre aux premières étapes d'une chimiothérapie ou d'un traitement lourd, et puis pas avoir trop de séquelles, parce qu'il y a aussi ça, j'ai eu la chance de pas avoir trop de séquelles, et puis de ne pas rentrer dans une maladie chronique, ce qui arrive énormément aujourd'hui. Mais ensuite, il fallait revenir vers la vie après être allé d'un côté qui était le wild side, mais très loin là cette fois, et sans l'avoir choisi en effet. Je crois que à ce moment, il me semble que je suis pas sûr de que la guérison, elle soit c'est une chose c'est pas une question qui s'est posée véritablement, je crois. C'était pas ça. C'était comment essayer de revenir, de se rattacher à la société, à mon entourage, à redevenir bienveillant, à écouter, à ne pas être impatienté. Et ça, c'était vraiment compliqué. Quand je suis revenu à l'hôpital, je crois que je supportais plus la violence hospitalière et la violence institutionnelle, qui est latente, bien entendu. Et c'était bien avant la tarification à l'acte et puis la destruction de l'hôpital public. Mais bon, voilà, il y a toujours une violence inhérente aux institutions. J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à supporter. Et donc, ça me mettait très souvent en colère contre l'institution. Je crois que c'est en partie ces raisons qui m'ont détaché de la pratique, même si j'ai beaucoup, je me suis senti très coupable d'arrêter pendant très longtemps.
Comme si vous aviez déserté votre métier.
Déserté, défroqué, on peut employer aussi ce mot.
Ah. Allons. On revient à la vocation, alors.
On revient à la vocation. Il y a quelque chose de très fort, quand même, dans le rapport à la médecine. Surtout quand on veut être médecin depuis toujours pour des raisons qui sont liées, pour des raisons qui sont affectives. Après ce temps, l'écriture est arrivée. Je crois que l'écriture de mes tout premiers livres, je me souviens en écrivant dans la vallée, enfin celui qui a précédé, qui a jamais été publié, puis dans la vallée, je me disais bon, il faut que j'écrive au moins ce livre-ci, sur le retour, là, sur la guérison, le retour du cancer, la convalescence difficile. Et j'avais une sorte de dette envers un certain nombre d'auteurs que je voulais, dont je voulais m'acquitter, et Primo Levi, Delbault, des gens comme ça, que j'avais beaucoup lu quand j'étais malade. Et je me disais mais si j'écris au moins un livre, il faut que j'écrive un livre qui les remercie. Qui paye ma dette vis-à-vis de cela. Et en faisant ça, d'une certaine façon, au tout début, j'ai écrit des textes qui s'apparentent à être thérapeute par la littérature.
Vous venez de parler de Charlotte Delbault, dont vous parlez de nouveau dans ce nouveau livre, La Sainte de la Famille. Je vous propose de l'écouter à propos justement du concept de vie. Elle est au micro de Jacques Chancel et c'est une archivina du 2 avril 1974.
Moi, j'ai une grande foi dans la parole et la communication. Je suis peut-être un peu démodée, mais je ne crois pas à l'incommunicable. Je crois que les mots ont une force qui leur permet de toucher les gens au cœur. Et je crois que les gens qui vont voir la pièce, qui rapportera ses paroles, je crois qu'ils sont touchés au cœur. Alors ça, c'est aussi la victoire.
Enfin, vous avez fait l'expérience que la véritable liberté, c'était la vie.
Ah oui, et la dignité.
Et la vie a toujours le dernier mot.
En effet. Vous savez, la petite graine qui tombe entre deux pavés dans une cour obscure, puis tout à coup, il pousse une plante ridiculement petite, enfin, qui n'a pas sa vraie taille ni sa vraie couleur, et pourtant, elle s'acharne, elle est là entre ces deux cailloux, et elle pousse. On vit parce qu'on vit, c'est aussi bête que ça. Parce que vivre, c'est lutter, et puisqu'on tient à la dignité et à la liberté, il faut lutter pour l'un et l'autre. Donc, vivre.
Nous venons d'entendre la voix incroyable de Charlotte Delbault. Charlotte Delbault qui a une œuvre considérable, qu'elle a rédigée à son retour des camps de concentration. Et quand elle parle, on a l'impression que c'est l'évidence pour elle d'écrire. Et c'était l'évidence aussi de savoir qu'elle allait survivre. Et elle dit aussi « vivre, c'est vivre ». Bon, ben voilà, « vivre, c'est vivre », comme si c'était une évidence. Est-ce véritablement une évidence, Patrick Autréau ? On peut dire que tout votre travail d'écrivain, non pas qu'il se résume, mais en tout cas, il a comme ligne de force « vivre, c'est vivre ».
Oui, c'est vrai. Il y a cette importance d'une réaction à des événements traumatisants, à des douleurs, à des souffrances. À chaque fois que j'écris à partir de là, d'une réaction qui est une survie. Donc je sais pas si
survie. Donc vous êtes un survivant encore aujourd'hui.
Je me sens assez survivant, avec et probablement aux deux sens du terme.
C'est-à-dire au-dessus des vivants.
Pas au-dessus, mais dans une forme de vie plus large, plus complète, intellectuellement, émotionnellement. Il n'y a pas l'idée d'une supériorité par l'expérience aux autres. Au contraire, il me semble que d'avoir fait ces expériences de la maladie et puis et mon expérience médicale comme médecin aussi, c'est de d'ouvrir complètement et de connaître la palette immense des comportements humains et de me sentir de plus en plus humain à mesure que je rencontrais les autres et me découvrais moi-même. Et c'est ça que j'appellerais le survivant au sens au-delà du vivant. Ce serait presque le vivant dans sa complétude. Je pense que ça a été très tôt, avant même d'être malade. Ça, c'était très tôt quelque chose qui m'a poussé, un vrai moteur. L'idée de connaître le plus de choses possibles, d'abord par curiosité intellectuelle, et puis ensuite de comprendre les comportements. Probablement parce que j'avais une famille, des parents qui s'entendaient mal, et donc il y avait une violence, une certaine forme de violence qui a fait éruption à un moment dans mon adolescence, que j'avais beaucoup de mal à comprendre, qui me terrifiait. Et à partir de ce moment-là, j'ai souvent été vers les comportements et les êtres qui me faisaient peur. J'ai commencé à aller aux urgences et à travailler aux urgences. Je me souviens dire clairement, j'ai peur des patients, des violents, évidemment. Je vais y aller. Il faut que je comprenne pourquoi j'ai peur, et puis il faut que je sache comment faire. Aussi pour prendre en soin des patients qui sont violents. Ça a fait le fait de connaître et d'être dans un rapport très intime avec la violence à l'hôpital a augmenté ma prudence, mais a fait perdre ma peur en comprenant mieux les comportements des autres.
Je ne crois pas que vous êtes prudent, hein, Patrick Autréau. Quand on publie Pussy Boy, qui raconte l'itinéraire d'un homme qui va dans les backrooms essayer de trouver l'amour, la grâce, la jouissance, au mépris de sa propre vie, en franchissant des dangers inconnus et qui les multiplie, je ne crois pas que ce soit l'apanage de la prudence.
Ça, c'est peut-être de l'audace, mais...
De la prise de risque.
Ah, une prise de risque, mais on peut prendre des risques, être aventurier et être prudent.
Seuls les survivants peuvent tenter ce genre d'aventure ?
Peut-être. Peut-être.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Patrick Autréau, qui nous a beaucoup étonnés, parce qu'il a choisi, mais qui a ravi Lilian Alaume, parce que c'est une chanson que sa grand-mère lui chantait, il la connaît donc par cœur. Pourquoi avez-vous choisi Les Roses Blanches ?
C'est une chanson que forcément mon grand-père chantait. C'est une chanson de la jeunesse de mes grands-parents, qui date des années 20, et la version de Bert Silva particulièrement. Ça a été repris après de multiples fois. C'est un grand hit parade, je crois, de toute une partie du XXe siècle.
Alors Lilian m'a expliqué que c'était très triste. Vous trouvez ça très triste ?
Alors, moi j'ai un rapport un peu compliqué avec cette chanson. C'est presque par bravade que j'ai choisi cette chanson. Parce qu'elle elle me fait pleurer et elle m'agace en même temps. Il y a ce chromo, cet expressionnisme là, cet sentimentalisme qui dégouline, et puis quelque chose de profondément émouvant aussi, qu'il y a un milieu social aussi, qui était celui de mon grand-père, de l'enfance de mon grand-père. Et puis, en filigrane, c'est le petit garçon dont il est question. C'est pour ça, sans doute, que ça m'énervait et ça me rendait très mal à l'aise quand j'entendrais cette chanson. C'est aussi moi. C'est celui qui perd sa mère.
C'était un gamin, un gosse de Paris. Pour famille, il n'avait que sa mère. Une pauvre fille aux grands yeux rougis par les chagrins et la misère. Elle aimait les fleurs, les roses surtout, et le bambin tous les dimanches lui apportait de belles roses blanches au lieu d'acheter des joujoux. La câlinant bien tendrement, il disait en les lui donnant. C'est aujourd'hui dimanche, tiens ma jolie maman, voici des roses blanches, toi qui les aimes tant. Va quand je serai grand, j'achèterai aux marchands toutes ces roses blanches pour toi, jolie maman. Au printemps dernier, le destin brutal va frapper la blonde ouvrière. Elle tomba malade et pour l'hôpital, le gamin vit partir sa mère. Un matin d'avril, parmi les promeneurs, n'ayant plus un sou dans sa poche, sur un marché, tout tremblant, le pauvre mioche furtivement vola des fleurs. La marchande l'ayant surpris, en baissant la tête, il lui dit: c'est aujourd'hui dimanche et j'allais voir maman. J'ai pris ces roses blanches, elle les aime tant. Sur son petit lit blanc, là-bas elle m'attend. J'ai pris ces roses blanches pour ma jolie maman. La marchande émue doucement lui dit: emporte-les, je te les donne. Elle l'embrassa et l'enfant partit, tout rayonnant qu'on le pardonne. Puis à l'hôpital, il vint en courant pour offrir les fleurs à sa mère. Mais en le voyant, tout bas, une infirmière lui dit: tu n'as plus de maman. Et le gamin s'agenouillant dit devant le petit lit blanc: c'est aujourd'hui dimanche, tiens ma jolie maman, voici des roses blanches, toi qui les aimais tant. Et quand tu t'en iras au grand jardin là-bas, ces roses blanches, tu les emporteras.
Malgré la perte de vérité que comporte le distancement, l'homme rétablit la distance quand elle, par hasard, il l'annule, comme il lui arrive dans un autre domaine que nous aurons à comparer, le moment venu, à celui-ci, comme il lui arrive de recréer la distance pour se passionner lui-même, pour retrouver la ferveur du sentiment. Et parce qu'en effet, il a besoin de l'absence et du déchirement, et même de la mort, pour passionner ses attachements. Et bien de la même manière, et d'ailleurs l'inverse pourrait se dire aussi, c'est dans le malheur qu'il prend conscience du caractère précieux de ses attachements, qui dit précieux, dit précaire, n'est-ce pas ? Et ceci, sans jeu de mots. La mort est bien là pour nous le faire sentir, puisque sans la mort, la vie des êtres qui nous sont chers, sans la possibilité de mourir, cette vie ne nous serait pas si précieuse, sans le caractère unique, irremplaçable, incompensable, fragile de l'existence de quelqu'un qui nous est cher, eh bien, nous ne prendrions pas conscience de ce caractère précieux. Donc, il y a un besoin de recréer artificiellement même cette distance dans le malheur, pour en prendre conscience. Et il y a du reste un jeu que l'homme joue avec la distance, car cette distance, ici, a un caractère ludique. Un caractère de jeu, comme on le voit bien dans le roman, n'est-ce pas ? L'homme se passionne lui-même par les romans qui inventent des obstacles et des traverses à cette unité.
Nous venons d'entendre la voix de Vladimir Yankelevitch après Les Roses Blanches. Vladimir Yankelevitch qui tient un rôle important à l'intérieur de la publication de votre nouveau livre, Patrick Autréot, intitulé « La Sainte de la Famille ». Car le narrateur nous raconte que, dans son adolescence, après avoir reçu le dictionnaire médical par son grand-père, eh bien, il lit de manière compulsive un ouvrage magistral et tout à fait visionnaire en son temps de Vladimir Yankelevitch, intitulé tout simplement « La mort ». Pourquoi ?
Je crois que j'étais dans une librairie et c'est un peu le hasard qui m'a amené devant ce titre.
Oh, hasard ou nécessité?
En tout cas, les mots ont été évidents. J'ai acheté le livre, j'ai eu beaucoup de mal à le lire.
Bah oui, mais je pense qu'il n'y avait pas beaucoup d'adolescents qui se précipitaient pour acheter un livre qui s'intitulait La mort.
Je devais avoir, je ne sais pas, 13 ou 14 ans. Et c'est un livre qui est resté très longtemps, qui était dans mon champ visuel et puis dans mon champ de préoccupation pendant très longtemps. J'écoutais beaucoup de Requiem aussi à cette époque, sans bien comprendre pourquoi, bien entendu.
Alors, c'est l'écriture qui vous a permis de comprendre pourquoi vous étiez dans cette atmosphère, justement, déjà de survivance bien avant la maladie.
Je m'en doutais un peu, mais il est vrai que écrire, en écrivant tardivement la Sainte, je me suis rendu compte quand même de la grande cohérence de tous ces petits phénomènes que j'avais remarqués, mais dont je me moquais un peu. Je me moquais quand même de moi et de mon rapport au Requiem.
Vous moquiez, mais vous écoutiez des Requiem et vous lisiez La mort de Yankelevitch.
Et puis,
vous aviez ce sentiment dont vous parlez dans les premières pages de ce nouveau livre, ce sentiment que vous restituez magnifiquement grâce à la beauté de votre écriture, de trous à l'intérieur de vous, d'effondrement.
Oui, l'enfant, je ne sais pas bien. Je pense que toute cette enfance et cette adolescence, je tournais autour d'un trou qui était concret. Hein, c'était, on allait au cimetière deux fois par semaine avec mon grand-père, ou trois fois par semaine.
Donc c'était le trou de la tombe de votre grand-mère.
Donc c'était le trou de la tombe de ma grand-mère. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte, en y réfléchissant, qu'il y avait quelque chose de lacunaire, de plus global en moi. Qui me faisait boiter aussi, qui me faisait clocher, parce que j'étais jamais tout à fait à ma place, jusqu'à ce que aussi je comprenne que ma sexualité était différente, que je venais d'un milieu différent, tout ça s'additionnant faisait que quand je suis arrivé à la fin de mes études de médecine, au début de l'internat, et que je commençais à me plonger vraiment dans l'écriture, c'est cette boiterie générale que j'ai eu envie d'écrire.
Je voudrais vous faire écouter une bande-son, parce que il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup d'odeur aussi, il y a beaucoup d'élévation. On va revenir sur le côté mystique de votre dernier ouvrage, Patrick Autréot. Mais il y a aussi beaucoup de cinéma. Écoutez ce court extrait d'un film.
Mon Dieu, quel bonheur! On m'a dit que tu étais vivant. Quelqu'un t'a vu près de la ville. Je suppose que tu es allé à Varikino, alors j'y vais aussi avec Katia. Mais dans le doute, je t'ai laissé quelques pommes de terre bouillies. Remets le couvercle sur la marmite, sinon les rats les mangeront. Oh, Yuri, quel bonheur!
Comment le docteur Jivago a-t-il illuminé le début de votre adolescence ?
Parce que Omar Sharif est très beau. Et puis en découvrant qu'on pouvait être docteur et médecin, ça a été un choc. Et à un moment dans le film, dans cette version d'Omar Sharif, le ponte qui est le professeur du jeune étudiant en médecine, Omar Sharif, lui dit qu'il faut aller vers la vie, qu'il faut que tu aies l'expérience de la vie, c'est la vie. Ça m'est resté ça m'a beaucoup marqué, ça m'a resté.
Donc si je vous comprends bien, vous avez en voyant et revoyant le docteur Jivago, vous êtes devenu médecin grâce à la beauté d'Omar Sharif.
Ah oui. Oui.
Bon ben voilà. Voilà, bon, comment naissent les vocations.
Christy ressemble beaucoup à ma mère aussi.
Ça fait beaucoup. Je vais vous proposer d'écouter quelqu'un qui a signé un film magistral sur, allez, j'ose, celle que vous aimez d'un grand amour. On l'écoute, il s'appelle Alain Cavalier.
En fait, il y a deux choses. Il y a une certaine gaieté, une certaine naïveté qui est indispensable quand on fait des exercices spirituels quotidiens pour un peu se détendre. Alors, ce n'est pas du tout ce que les spectateurs croient qu'elles sont en prière du matin jusqu'au soir. Et puis ensuite, c'est une vie de pauvreté. Parce que le thème, il est très simple, c'est qu'il faut s'oublier soi-même. Le problème, leur problème, je ne dis pas que ce soit le mien, c'est de s'oublier pour mieux se répandre et mieux communiquer avec le plus de gens possible. Je pense que les carmélites s'enferment dans les couvents, je dirais presque pour mieux s'ouvrir. sont des athlètes, finalement, un petit peu du mysticisme. Le mysticisme, c'est une façon d'aimer. Et quand elles sont heureuses, elles pensent qu'elles projettent du bonheur en dehors du Carmel. Et quand elles sont malheureuses ou souffrantes, elles pensent que c'est leur façon de partager la souffrance des autres.
Nous venons d'entendre la voix d'Alain Cavalier. C'était au moment de la sortie de son film magnifique intitulé Thérèse. Thérèse. Voilà, Thérèse. C'était en 1986. Et on peut dire que Thérèse, c'est celle que vous aimez au fond. Vous lui donnez beaucoup de visages. Vous lui donnez beaucoup de lumière. Vous l'appelez à un moment, je crois, l'envoyeuse de roses. Vous parlez du temps où elle était vivante, Thérèse de Lisieux. Vous parlez du temps où elle est morte. Ensuite, du temps où elle a été, et c'est terrible, parce que je crois que ce que vous racontez est tout à fait, hélas, le reflet de la vérité, enterrée, déterrée, réenterrée, redéterrée, etc. Comment a commencé votre amour avec Thérèse, ou pour Thérèse? Vous préférez avec ou pour?
Les deux, peut-être. C'est devenu un personnage qui livra ma vie complètement depuis longtemps. Je pense que j'ai un peu joué avec l'image du docteur, parce qu'elle est docteur de l'Église aussi, et finalement ses écrits sont presque des écrits d'analysante. Donc j'ai beaucoup joué avec ce rôle qu'elle peut avoir, qui est presque un rôle de psychanalyste pour moi, parce qu'elle aurait j'ai projeté sur elle différents visages de ma propre enfance. J'ai fait beaucoup de rêves alors que je travaillais des manuscrits, un texte sur elle, et puis je disais beaucoup sur elle. Pas des textes de théologiens, parce que je sais pas tellement ma tasse de thé, mais plutôt des textes de philosophes et puis de psychanalystes. Et j'ai beaucoup rêvé dans ces moments-là, et fait des rêves qui me renvoyaient à ma petite enfance. C'est un peu comme ça qu'a pris naissance, il y a une dizaine d'années, l'écriture de ce livre. Mais la présence de Thérèse, elle était déjà dans ma famille, parce qu'elle avait été, c'est une des saintes les plus populaires de l'entre-deux-guerres, et puis de l'enfance et de la jeunesse de mes grands-parents. Et puis comme ma mère avait été malade dans la fin des années 40, elle a été mise sous la protection de Thérèse par ma grand-mère, qui n'était pas particulièrement religieuse, mais assez pieuse. Et puis, avec l'espoir de le mettre sous la protection d'une thaumaturge. Hein, c'est la grande thaumaturge, c'est ce qui m'intéressait chez elle aussi. Cette Thérèse populaire. Chez Cavalier, j'adore le film de Cavalier. Et puis, il y a eu aussi énormément d'écrits formidables sur Thérèse par des psychanalystes, des anthropologues. C'est moins la Thérèse des lettrés qui m'intéressait cette fois que la Thérèse populaire, la thaumaturge, celle qui correspond...
Elle aurait pu sauver votre grand-mère.
Elle ne l'a pas fait.
Et elle ne l'a pas fait.
J'évoque un pèlerinage où je n'étais pas là, que font mes parents et ma grand-mère et mon grand-père. Recours du dernier, le dernier recours possible. Et malgré tout, on lui en a pas voulu dans la famille. Elle est restée quand même une présence protectrice. C'est assez étonnant quand même, ces saints protecteurs, ces saints thaumaturges. Il y a quelque chose d'assez émouvant. On peut en rire beaucoup et s'en moquer. Et parce qu'il y a aussi.
C'est pas du tout ce que vous faites.
Non, pas vraiment. mais on peut être aussi critique du business que ça représente pour l'Église.
Mais pourquoi n'y a-t-il plus de saintes? Pourquoi le XXe siècle, la deuxième partie du XXe siècle et la première du XXIe n'a pas produit de nouvelles saintes?
Je crois qu'il y en a, il y a pas mal de gens qui ont été canonisés, non? Par la,
oui, mais pas aussi populaire que
pas
Thérèse.
Pas aussi populaire. C'est probable que, il est possible que le besoin anthropologique, je l'analyserai comme ça, que le besoin anthropologique à quoi répondait Thérèse trouve une autre réponse, une autre solution aujourd'hui, ou c'est peut-être plus dilué. C'est possible. Et il y avait quand même un saint, ça se construit. Hein, c'est une construction institutionnelle. L'Église, et puis le Carmel a œuvré, et les sœurs, il ne faut pas oublier qu'il y avait Thérèse, certes, mais il y avait toutes les sœurs qui étaient à côté dans le Carmel et qui ont vraiment œuvré. Et la Grande Guerre, il y a tout un passage dans ce livre sur les lettres de Poilu. Au moment du centenaire de la guerre de 14, il y avait une publication des lettres de Poilu à Thérèse et au Carmel. C'est assez fascinant de voir ça, parce qu'elle était, avec Jeanne d'Arc, les deux saintes protectrices des armées, d'ailleurs des armées de tous les camps. C'est aussi émouvant de voir ça. Mais là, on est dans une construction institutionnelle. C'est politique, créer un saint, c'est une affaire politique. C'est plus une affaire, c'est une affaire de croyance, bien sûr, mais c'est d'abord une affaire politique.
Dernière question. Elle est issue des dernières pages de votre nouveau livre, Patrick Autréot. Comment vais-je faire pour vivre maintenant ?
Ça évoque une crise intérieure de ma foi en l'écriture à un moment donné. Et c'est ce cri qui m'est venu au moment de cette crise intérieure qui faisait écho à un autre cri, qui est le cri de Thérèse de la faim. Comment vais-je faire pour mourir ? Et il y a certaines circonstances existentielles où on est curieusement dans une situation où on ne peut pas mourir et on ne peut pas vivre à la fois. C'est un moment comme ça que je décris à la fin de ce livre et qui m'a fait pousser ce cri.
Merci infiniment, Patrick Autréot. Votre dernier livre est publié comme les autres aux éditions Verdier et il s'intitule « La sainte de la famille ».
Je suis père et fils, et je fus mari, années 70 avant Jésus-Christ. Je reviens de loin, à travers le temps, j'ai fait le chemin à dos d'éléphant. Mon cheveu farine et ma peau me ment, c'est une patine, c'est un ornement. J'ai bien aimé hier, bien aimé avant, mais j'ignore comment faire sans toi maintenant. Qu'est-ce que tu fais ? Les 100 prochaines années, je te verrai bien. Qu'est-ce que tu fais ? Les 100 prochaines années, je te verrai bien. Les 100 prochaines années. J'ai lu dans nos mains l'avenir qui brille, de beaux lendemains roulement habille. Je tiens la calèche, qu'il vente ou qu'il pleuve, une rose fraîche entre mes dents neuves. Plongeons saut de l'ange du haut d'un rocher, dans le ciel orange, je t'ai vu m'aimer. Qu'est-ce que tu fais ? Les 100 prochaines années, je te verrai bien. Qu'est-ce que tu fais ? Les 100 prochaines années, je te verrai bien. Les 100 prochaines.
Et c'est avec Albin de la Simone que nous allons nous quitter ce soir. Merci encore Patrick Autréot. Je rappelle que votre livre est intitulé « La sainte de la famille » et qu'il vient d'être édité aux éditions Verdier. Merci à Mathias Alléon qui est à la régie technique ce soir. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Élodie Royer, Céline Villegas, Laura Dumez, Théo Mention et bien sûr à Lilian Alôme qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission.